Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Dans la revue de presse, on parle du procès d'un trafiquant d'armes et d'un indicateur de la police.
Oui, en une seule personne, ça se passe à Lille toute la semaine, le procès de Claude Herman, patron de friterie, ancien militaire et barbouze, informateur des douanes, des gendarmes et de la police, et trafiquant d'armes présumé donc, un personnage que les journaux traitent entre ironie et fascination, un bloc de muscles et de chair pour la Voix du Nord, crâne rasé, blouson noir, carrure impressionnante, décrit le Figaro, le crâne parfaitement lisse, habillé tout en noir, le colosse a soigné sa tenue, dit Libération qui affecte de ne pas être dupe. Bon, c'est un procès qui a pris une autre dimension parce que parmi les centaines d'armes qui venaient de Slovaquie et qui auraient transité par la filière Herman, certaines se sont trouvées entre les mains de Hamedi Coulibaly, l'assassin de la policière Clarissa Jean-Philippe et l'auteur de l'attentat contre l'hypercachère en janvier 2015. Mais avant même cette dimension terroriste, on a le procès et la narration du procès d'un maître du demi-monde de la marge et des arrière-cuisines de notre société, tant Herman a fréquenté policiers et gabelous et s'en vante. Street Press, il faut lire ce dossier qui est en ligne sur Internet, publie une série d'articles sur ce personnage. On y voit notamment Herman, membre alors du service d'ordre du Front National, tenter un coup d'état au Congo en 2001. On y voit le même Herman jouer plus tard les pères aubergistes de toutes les extrêmes droites lilloises dans son bar qui s'appelait la Maison Flamande, depuis les skinheads jusqu'aux notables du FN, mais aussi une gente policière en quête là-bas d'informations et de copinage. Ces gens-là, s'interroge Street Press, l'ont-ils protégé ? Ils témoignent aujourd'hui à huis clos à son procès.
Dans le Nord, encore, Claude, des gens qui n'osent pas faire valoir leurs droits.
Et là, on est aux antipodes de l'arrogance. On parle de la timidité d'une jeune femme qui s'appelle Marie. Elle a 22 ans. On voit sa photo dans le journal. Elle travaille, Marie, comme pompier volontaire. Elle n'a que ça pour 7 euros de l'heure. Et elle s'est retrouvée en galère financière et elle n'osait pas solliciter les aides au logement. Elle ne voulait pas abuser. Ça, c'est le dossier de la Voix du Nord. Depuis 2 jours, ces Français qui n'osent pas faire valoir leurs droits. Sur le site internet du journal, vous trouverez aussi Carole dont la vie s'était effondrée, dont les dents se déchaussaient. Mais comme je n'avais plus de mutuelle, dit-elle, je n'allais pas chez le dentiste. Au lieu de pouvoir garder mes dents, je les ai perdues. Elle ne savait pas qu'elle avait droit à la couverture maladie universelle. On lit ces témoignages dans la Voix du Nord et puis on change de journal. On pense ensuite aux Échos, le quotidien économique avec l'interview techno et surdelle du ministre des Finances Bruno Le Maire. Et là, on a un vertige. Bruno Le Maire détaille la philosophie du pouvoir, je cite, « valoriser la création de richesses, la prise de risque, l'innovation. Sortons de cette idéologie si nuisible à la France qui consiste à surtaxer le capital. Nous voulons récompenser ceux qui prennent des risques. » Bon, tout ceci a sa logique intrinsèque. Mais du coup, entre la Voix du Nord et les Échos, la presse nous dessine deux France. D'un côté, la France du risque, qui a tous les droits, et en face, la France de ceux qui ne veulent pas déranger.
Et puis c'est le jour, on en a parlé, des manifestations de la CGT contre les ordonnances travail.
Et il y a dans l'Humanité une interview qui donne la mesure de l'évolution idéologique d'un pays. L'UMA est allé chercher un socialiste, Jean Auroux, le ministre du Travail de François Mitterrand en 1981, qui évidemment vit très mal l'actualité. Pas parce qu'on met en l'air mes lois, dit-il, mais parce que l'on détruit plusieurs décennies de progrès social. Et Auroux insiste, moi aussi j'ai utilisé des ordonnances, mais c'était pour limiter l'intérim, instaurer la 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Et il rappelle son slogan d'alors, pour que l'entreprise ne soit pas le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Il raconte, Jean Auroux, à l'Humanité, l'invention des comités d'hygiène et de sécurité, cette instance qui va être fusionnée avec d'autres organes sociaux. Le patronat, dit-il, n'y a jamais été favorable. On repart 35 ans en arrière. Bon. Il y a dans cette interview plus qu'une nostalgie, mais la prise de conscience de la bascule idéologique donc d'un pays. Il y a 35 ans, selon Roux, les syndicats étaient heureux. Henri Krasucki, le secrétaire général de la CGT, était arrivé avec un beau dossier et m'avait dit « Je t'apporte 23 ans de revendications, tu trieras un peu ». Quel contraste avec la situation des syndicats tels que la presse les décrit aujourd'hui, éparpillés, minorés et tellement heureux, comme Jean-Claude Mailly dans Nice ce matin, quand on leur donne un peu de concertation. Le Figaro célèbre la sagesse retrouvée de Force ouvrière, mais il s'inquiète de, je cite, dangereux virage à gauche du président de la centrale des cadres, il s'agit de François Almeril, patron de la CFE-CGC, qui, dit un de ses amis au Figaro, a été marqué par le démantèlement de Péchinet où il travaillait. On peut le comprendre, mais on sent dans la Figaro la peur du retour des temps anciens. Autre contraste entre Auroux, que Mitterrand, à l'époque, avait choisi parce qu'il était le maire d'une ville ouvrière. « Je ne veux pas d'un juriste », disait le président socialiste. Et aujourd'hui les professionnels de la négociation d'entreprise qui donnent les cadres du nouveau code du travail. Allez lire sur le site des Échos un article sur la grande victoire culturelle des DRH, ou allez lire dans l'Opinion aujourd'hui cette analyse sur le pouvoir de deux ministres venus de la société civile, Blanquer à l'éducation, Muriel Pénicaud, donc ancien DRH au travail, le triomphe de la technicité et la fin de la lecture politique. Sauf si les ordonnances travail, bien sûr, sont politiques.
Et pour finir, on s'interroge encore, Claude, dans la presse, sur les mots et l'idéologie d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, l'homme des feignants encore, et ça ne passe pas. Les dernières nouvelles d'Alsace dénoncent ce président qui segmente et dénigre, et le républicain moque l'époque, et par association, ce chef de l'État qui fait néant, qui réduit à néant, feignant, vous voyez le jeu de mots, les salariés, les surveillants de cantine renvoyés par la fin des contrats aidés. Peut-être qu'Emmanuel Macron pourrait lire le Parisien aujourd'hui en France, qui rappelle aux parents qu'il ne faut jamais blesser les enfants quand on les gronde, parce que les mots laissent des traces. C'est un papier très sérieux sur l'éducation, si la politique ne l'est pas toujours sérieuse. Quant au président, l'Opinion lui trouve une excuse dans une analyse psychologique. C'est un idéaliste imprégné d'une mission de redressement national, et il déteste ceux qui ne veulent pas bouger. Notons, pour finir, que le pouvoir fait beaucoup parler de lui et communique beaucoup, comme s'il s'agissait de nous distraire en ce 12 septembre. Dans ce registre, Nicolas Hulot, dans Le Parisien, n'est pas inintéressant dans sa posture d'homme ordinaire qui n'éprouve aucune satisfaction à être ministre. On apprend au passage que l'épouse et la fille du ministre sont devenus végétariens et lui est en chemin. Tiens donc, on y pensera à Rennes où un grand salon de l'élevage tente actuellement de sauvegarder la filière viande. Tout le dossier est dans l'Ouest-France. On apprend que la présidente de L214, cette association qui s'oppose aux abattoirs, a été sifflée hier. Qu'est-ce qu'il est difficile d'exister.
Claude Askolovitch pour la revue de presse. Merci.